Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bon après-midi. Et nous en sommes à la face A de la quatrième cassette, en train de conclure le chapitre 8. J'aurai encore quelques réflexions à partager avec vous concernant l'obéissance dite supplétive. Elle est une forme vraiment exceptionnelle et très délicate à bien pratiquer, qui exige et exigera toujours beaucoup de maturité, d'aplomb, d'équilibre, tant spirituel que naturel. C'est donc une forme supérieure et parfois même héroïque. Et quand je dis forme supérieure et héroïque, je veux indiquer en particulier que la rançon à payer est ou sera parfois très grande. En effet, celui et celle qui exerce l'autorité peut fort bien non seulement ne pas comprendre ce qu'est mon obéissance supplétive, mais il ou elle peut même m'accuser de désobéissance, me juger, me condamner, m'accuser de diviser la communauté, d'être rebelle, peut même me menacer ou user de représailles. Il faut donc une grande maturité, de l'assurance et de la maîtrise d'ordre spirituel et naturel pour subir ce retour de manivelle, demeurer quand même calme et serein, savoir pardonner et offrir et poursuivre sa route dans l'obéissance à Dieu, que l'on sait fondée, légitime, chrétienne et exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs ici qu'on retrouve toute la différence au monde entre, d'une part, une personne en autorité qui est animée par l'esprit de pouvoir, et d'autre part, une personne qui exerce l'autorité, elle, vraiment en esprit, en état et en habit de service. La première, qui dirige en esprit de pouvoir, se sent habituellement menacée, on l'imagine bien, concurrencée, ignorée, rejetée ou méprisée par la pratique de l'obéissance supplétive. Elle a l'impression, et c'est fondé, qu'on en appelle à une autorité supérieure à elle. Et même s'il s'agit de l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes, bien des chefs autoritaires en prennent ombrage. Alors que dans le second cas, celui de la personne qui exerce, elle, son autorité vraiment en esprit, en état et en habit de service, l'obéissance supplétive de ses subalternes ne porte pas ombrage. Elle est acceptée d'autant plus que cette personne a épuisé ses propres moyens de rendre service, qu'elle ne se sent plus en mesure de vraiment concilier le vouloir et les jugements actuels de Dieu et les désirs précis qui semblent être inspirés au cœur de leur sujet ou sujette. L'obéissance supplétive vient même, alors, les soulager en quelque sorte, leur enlever une épine, les dégager en fait d'une responsabilité. Chose certaine, plus une personne en autorité l'exerce en esprit de service et a personnellement une vie intense d'écoute du Seigneur, moins ses subordonnés, ses ouailles, auront besoin de recourir à l'obéissance supplétive. En effet, la perception du vouloir divin actuel, tant chez la personne en autorité que chez le subalterne, sera habituellement identique et se confirmeront mutuellement. À ce moment-là, tous deux pourront vivre ensemble l'obéissance active à son meilleur. C'est d'ailleurs ce qui est rassurant avec Jean-Paul II. On sent, on voit et on vérifie qu'il prend tous les moyens requis dans une vie exemplaire de prière, d'écoute, d'abandon et de docilité pour toujours connaître le saint vouloir de Dieu sur son Église. Et quand Jean-Paul II fait part de ses options, de ses priorités, comme de ses oppositions, tous les fidèles en Église qui, comme lui, se donnent la peine d'écouter le Seigneur, de le prier et de vouloir lui obéir, se retrouvent parfaitement à l'aise avec les perceptions et déclarations de Jean-Paul II. Pour cette notable portion du peuple de Dieu, c'est donc l'obéissance active où l'autorité et les sujets fidèles se confirment mutuellement. Point n'est besoin de corriger le tir de Jean-Paul II en recourant à une forme d'obéissance dite supplétive. Et voilà, le temps est venu de conclure ce chapitre 8. Je le redis donc avec la plus grande conviction. Ce n'est pas désobéir à Dieu que de vouloir mieux obéir en contournant ce qui, après prière et discernement, notre âme et conscience devant Dieu, nous apparaît précisément comme un obstacle certain à l'accomplissement du saint vouloir divin. Comme on le sait, le mot « écran », selon le dictionnaire, peut avoir deux sens. Soit celui d'une surface sur laquelle sont reproduites les images photographiques et cinématographiques. On parle d'un grand écran. Soit le sens tout différent d'un objet interposé qui dissimule et bloque la vue. Bref, fait écran. Bravo alors si la personne en autorité est un écran qui projette clairement en gros plan la volonté de Dieu. L'obéissance alors est un charme et nous relie directement en relais à Dieu. Mais si la personne en autorité, même inconsciemment, malgré ses bonnes intentions et toutes ses bonnes qualités, fait écran, nous bloque la route dans notre obéissance à Dieu, il faut faire un « bypass », pour prendre une expression anglaise maintenant francisée, c'est-à-dire un pontage d'amour pour contourner cette artère bloquée. Les apôtres Pierre et Jean, Actes des apôtres 4, 19 et 5, 29, l'avaient compris. Lorsqu'ils ont dit au grand prêtre, « Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », et ils ont continué à agir selon les vues de Dieu, et ce, malgré l'interdiction formelle des chefs religieux du temps. Et depuis lors, au cours des siècles, bien d'autres en Église, dont nombre de saints et de saintes, ont eu la fidélité et le courage d'agir ainsi, car cela exige beaucoup de maturité et d'audace spirituelle, croyez-le. Et voilà, passons, si vous le voulez bien, au chapitre 9. Comment toujours bien procéder face à ces leaders spirituels, momentanément aveugles, sourds ou muets, en ces derniers temps exceptionnels? Au début de ce chapitre 9, qui va être consacré principalement à nous indiquer la manière et les étapes les meilleures de procéder, humainement et chrétiennement, rappelons en termes éclairs, en un seul mot, et clairs en deux mots, encore une fois, la question précise qu'une multitude de fidèles, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, se posent carrément, veut pas, à l'heure actuelle, en notre Église, à la grandeur du monde. Concrètement, se demande-t-il, quoi faire au juste quand celui ou celle qui nous commande en Église, évêque, supérieur, autorité majeure sur le plan ecclésiastique ou religieux, après un sérieux discernement spirituel et communautaire, s'avère incompétent ou ignorant? ou encore peu ou nullement intéressé au domaine de la vie spirituelle, aux questions d'ordre mystique, charismatique, d'ordre prophétique, voire même à tout ce qui concerne la vie et le progrès des âmes. En d'autres termes, un chef spirituel qui ne semble pas à sa place, n'aurait jamais dû être choisi ou élu, n'aurait jamais dû accepter. Et croyez-moi, il y en a. Beaucoup plus qu'on ne le croit. À la lumière de mon expérience, au moins 1 sur 5. Que faire également devant un autre type de leader spirituel qui, lui ou elle, est peut-être comblé de savoir, d'intelligence et même d'expérience, mais semble avoir perdu peu à peu, vraiment, pour des raisons que nous n'avons pas à juger, la vigueur de sa foi, la ferveur de sa relation au Seigneur, l'ardeur de sa vie apostolique, bref, qui n'est plus homme ou femme du Seigneur ou de l'Église, si ce n'est qu'en titre. Et croyez-moi, c'est le cas sûrement d'un autre sur 5. Enfin, que faire concrètement devant une personne en autorité qui, consciemment ou inconsciemment, abuse de son autorité, est imbu d'esprit de pouvoir, de domination, a le constant désir de s'imposer, a même des comportements aux allures souvent autoritaires, parfois tyranniques, et veut se servir de son autorité pour freiner, stopper, contrecarrer, combattre les vocations, les appels, les missions ou les désirs du Seigneur, pourtant clairement signifié aux prêtres, religieux, religieuses, laïcs concernés. Oui, que faire? On ne peut plus se contenter, en toute honnêteté et conscience morale chrétienne, de leur conseiller, comme hélas plusieurs l'ont fait et le font encore, « Eh bien, endurez votre mal. » « Soumettez-vous quand même. Après tout, c'est l'autorité. Elle ne peut pas se tromper. Ça a toujours été comme ça en Église. Offrez ça pour vos petits péchés. Priez pour sa conversion, etc., etc. » Tous ces refrains classiques, bien connus, de nature plutôt sédative, antispasmodique, mais qui, à la vérité, ne sont bien souvent que des trompe-l'œil, des diversions, des dérivatifs purement humains, nullement appropriés aux circonstances actuelles des plus importantes. En recourant à ces exhortations somnifères, à ces analgésiques pseudo-spirituels, en autant exceptionnel où un fort courant de leadership spirituel s'en vient de bas en haut, en Église, on risque fort, dans bien des cas, de contrecarrer l'œuvre du Seigneur en cours chez ce frère ou cette sœur, instrument présentement choisi et inspiré par l'Esprit dans l'œuvre divine du renouveau de l'Église et du monde. Et passons au premier point A de ce chapitre 9. Deux grands principes directeurs. Premier principe directeur, il faut donner à ce leader spirituel, et s'il s'agit du sien, de son leader spirituel en question, toutes les chances possibles, sans en négliger aucune. Il faut donc procéder et discerner calmement, sérieusement, méthodiquement, miséricordieusement, et vouloir éviter, dans toute la mesure du possible, les divergences et les dissidences à affirmer ou les distances à prendre. Et, correspondant à ce premier principe, deuxième, mettre personnellement de son côté à soi également toutes les chances possibles, sans en omettre aucune, de manière à ne pas se tromper et n'avoir jamais à regretter un jour ses options. Faire en sorte qu'en optant pour une ou des divergences, des dissidences ou des distances à prendre au besoin, on puisse continuer sa route spirituelle personnelle, apostolique ou pastorale en Église, avec une grande sécurité, dans la paix, l'amour et la joie, sans peur et sans reproche. Section B. Les étapes importantes à franchir. Et je vous propose un cheminement progressif en 8 étapes. Première étape. D'abord, commencer par bien prendre conscience de deux choses. Qu'il s'agit là d'une démarche sérieuse, c'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas d'une personne en autorité sans avoir de très bonnes raisons. Car l'autorité est voulue et établie pour mieux nous conduire à Dieu. On ne doit donc pas s'en distancer à la légère. Deuxième chose, prendre conscience qu'il s'agit d'une mesure ou des mesures exceptionnelles auxquelles on ne doit recourir qu'en dernier ressort. Je dirais même doublement exceptionnel à cause de cette période des derniers temps en cours. Deuxième étape, bien savoir, et se le redire très souvent, qu'il ne s'agit pas en ce domaine de faire une évaluation approfondie, complète, de la personne elle-même, du leader ou chef spirituel en question, un bilan complet. Cela appartient à Dieu, lui qui sonde les reins et les cœurs, et à lui seul. Pour nous, il s'agit seulement de discerner si à travers ce leader spirituel en question, je sens ou non que la voix VOIX et VOIE du Seigneur passe et me rejoigne personnellement, présentement. Si ce chef spirituel est ou non, à mon humble avis, un instrument valable du Seigneur auprès de moi en ces temps exceptionnels en cours. Bref, si à mon jugement personnel, en toute conscience devant Dieu, je trouve qu'il voit et entend, ou au contraire, ne voit pas et n'entend pas ce qui se passe présentement en Église, dans le monde des âmes en particulier et le monde universel en général. Donc, y a-t-il communication à travers lui ou elle entre Dieu et moi? Y a-t-il harmonie entre ce que Dieu me dit au cœur et ce que ce chef exprime ou projette? Troisième étape, procéder à un discernement sérieux, c'est-à-dire spirituel. Donc, solliciter l'aide de l'Esprit. Un discernement prié et même jeûné si possible. Discernement prolongé, sans prédétermination, et consulter et partager au besoin avec ses frères et sœurs. Toujours bien s'assurer d'être à l'abri des préjugés ou des rumeurs, de ses propres blessures, des pressions extérieures, de la précipitation, et toujours remonter à la source même, c'est-à-dire considérer les vrais dires de ce chef spirituel, ses écrits originaux, et ne pas se fier aux journaux, aux reportages seulement, aux rumeurs, et ne pas passer par des personnes interposées, vérifier soi-même directement. Quatrième étape, considérer que le discernement porte sur la situation présente, en cours seulement, qu'il ne s'agit pas d'une option de divergence, de dissidence ou de distance définitive, irréversible, à long terme. Donc, être toujours prêt ou prête à la réviser, même prévoir de le faire périodiquement. Car en ce domaine, l'Esprit du Seigneur, ne cessant jamais d'opérer dans les cœurs, les esprits et les âmes, peut opérer une conversion, une résurrection, une reconsécration chez ce chef spirituel, et cela peut se produire rapidement, radicalement, surtout en ces temps-ci particulièrement. Cinquième étape. Pour s'aider dans l'évaluation de la situation et pouvoir mieux saisir si tel ou tel chef spirituel répond ou non à nos légitimes attentes présentes, donc si c'est pour nous un actif ou au contraire un passif, il existe une abondance de points de repère. Vous comme moi n'en manquons pas, et je me permettrai, après avoir complété l'exposé des 8 étapes, au cas où cela pourrait être utile à certains d'entre vous, de vous en suggérer 4 séries parmi des douzaines d'autres possibles. Sixième étape. Celle-ci n'est pas obligatoire, en ce sens qu'elle n'est pas toujours possible, compte tenu du nombre considérable des fidèles. En effet, tous ne peuvent avoir l'occasion de rencontrer à leur guise leur leader spirituel et avoir l'occasion de partager personnellement et directement avec eux les divergences de vues, les dissidences ou leur goût de prendre leur distance. Mais je suggère que dans toute la mesure du possible, on tâche d'exprimer à ces chefs spirituels, directement et de vive voix si possible, par écrit au besoin, avec respect et amour, dans la vérité et la liberté spirituelle, tout autant ce qui ne va pas que ce qui va. Septième étape. Procéder selon les 4 derniers D mentionnés dans la liste des 10 D, des 10 D. Procéder avec une détermination respectueuse des autres. Respectueuse d'abord du chef en question, du leader spirituel, mais également de ceux et de celles qui nous entourent ou entourent ce chef, qui ont droit à leurs opinions et qu'on ne doit pas chercher à liguer. Une discipline, de autre dé, exemplaire. Comme je l'ai dit, procéder méthodiquement, sérieusement, spirituellement, et jamais à la course ou à la légère. Avec, troisièmement, un grand détachement spirituel. C'est toujours décevant, pénible même, de retirer momentanément toute ou une portion de sa confiance en quelqu'un, surtout qui est un chef de file, en qui on a mis jusque-là toute sa confiance. Mais ce sacrifice, s'il est bien accepté, bien offert, bien vécu, peut être valable et méritoire pour tous. Et enfin, avec toute la dignité chrétienne possible, c'est-à-dire avec un grand amour, avec un pardon sincère, sans jugement et avec beaucoup d'espérance. Ces quatre derniers dés de la série des 10 dés doivent être respectés de façon exemplaire. D'abord, pour n'avoir aucune culpabilité, ne rien avoir à se reprocher, à regretter ou à réparer. Ensuite, pour démontrer aux autres qu'on agit avec maturité, esprit chrétien. Et enfin, faire en sorte que cela puisse édifier les chefs spirituels mis en cause. Et qui sait, être peut-être l'occasion de leur éventuelle conversion. Huitième et dernière étape que je vous suggère, conservez toujours comme idéal de rétablir un jour toute sa confiance en ce leader spirituel, selon le dessein même de Dieu et pour le bien de l'Église. Comprendre que momentanément, en ces temps exceptionnels, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne comprend pas autant qu'il le devrait. Et ne jamais oublier que par notre attitude exemplaire, héroïque même, à son égard, en cette période difficile de transition vraiment sans précédent, on peut être ou devenir instrument privilégié d'évolution et de transformation de ce leader spirituel en question. Croyons en la nouvelle parabole, celle du pasteur perdu et retrouvé par ses brebis. Mais revenons-en, tel que promis, à la cinquième étape, pour donner à titre d'exemple quatre séries de points de repère, fort utiles dans l'évaluation de la situation et de la relation positive ou négative entre nous et tel ou tel de nos leaders spirituels. Quatre séries parmi des douzaines d'autres possibles. On peut et on doit évaluer, discerner, d'abord d'après ce qu'on retrouve dans l'Évangile concernant l'arbre bon qui donne du fruit. Ce que j'appelle les fruits aux quatre valeurs. C'est dans l'Évangile, Matthieu 7, 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 17. Tout bon arbre produit de bons fruits. L'arbre malade produit de mauvais fruits. Et verset 19. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe. On le jette au feu. C'est-à-dire, on s'en sépare. Et quand je parle de fruits spirituels, je parle, un, de fruits savoureux, deux, de fruits en abondance, trois, de fruits qui demeurent, et quatre, de fruits qui se multiplient, comme on le lit dans la Genèse, chapitre 1, verset 29, tout arbre dont le fruit porte sa propre semence. Pour bien discerner un évêque ou tout autre leader spirituel, il ne faut pas le faire seulement d'après ses bonnes intentions, son dévouement, sa bonne conduite morale, son recueillement dans les cérémonies, son sérieux humain, mais surtout d'après les fruits qu'il donne, l'intensité de sa vie spirituelle, son intimité de vie avec le Seigneur et Marie, sa flamme apostolique, au milieu de laquelle on retrouve comme dans un buisson ardent le Christ bien vivant, en pensée, en parole et en acte. Une conception d'Église à base de puissance divine, demandée, accueillie et encouragée, et animée dans un authentique esprit de service. Un évêque qui peut fort bien s'occuper des démunis matériels et des handicapés physiques et autres sur le plan temporel, il n'y a rien contre cela, au contraire, mais toujours avec le désir d'aller plus avant spirituellement parlant. Autre échelle d'évaluation, entend-on à travers lui la voix du bon pasteur? Entendre un pasteur nous parler du Seigneur ou faire parler le Seigneur en le citant, c'est une chose. Mais entendre le Seigneur nous parler à travers lui, c'est une toute autre chose. Dans le premier cas, il suffit d'être intelligent et instruit pour parler du Seigneur. Dans le deuxième cas, pour que le Seigneur parle à travers nous, il faut que le pasteur soit lui-même déjà à l'écoute du Seigneur et qu'il le laisse passer en lui et à travers lui. Et je vous réfère au texte de Jean-Paul II, imprimé à la page 12 du feuillet d'accompagnement, où il s'adresse aux évêques d'Irlande en visite ad limina au Vatican. On pourrait ajouter, non sans raison je crois, que le berger qui, lui, ne capte pas et donc ne retransmet pas la voix du Seigneur auprès de ses brebis, tout simplement parce qu'il ne la connaît pas et ne la discerne pas, se trouve tout à fait disqualifié lorsqu'il s'agit de discerner la voix du Seigneur chez les autres. Je pense notamment à ces légions d'hommes et de femmes d'église, évêques, prêtres, théologiens, directeurs spirituels, agents de pastoral, religieux, religieuses, qui sont personnellement incapables de repérer la voix du Seigneur en eux, à travers des messagers de Dieu, comme la Vierge Marie, par exemple, comme Jean-Paul II. Comment voulez-vous qu'il puisse l'identifier dans les âmes des tout petits et simples, des porteurs de messages, des révélations privées, des visions, des songes, etc.? Pour eux et pour elles, tout cela sonne les langues étrangères du début à la fin. Les vraies brebis, lit-on dans Saint Jean 10, 4, 5, connaissent sa voix. Et quand ils ne la reconnaissent pas, cette voix du Seigneur chez leur berger, ils ne veulent pas suivre des étrangers. Et cela explique, en très grande part, la désaffectation massive que l'Église a connue et connaît encore en notre Église catholique au cours de ce siècle. Troisième hypothèse, le chef spirituel en question, évêque, prêtre, religieux, religieuse, laïque, engagé, est-il du style 1 actuel, blessé à mort, auquel le peuple de Dieu s'apprête en droit et en devoir de conscience à dire au revoir et merci? Où est-il, au contraire, du type d'instrument du Seigneur, de bord en bord, dont se sert l'Esprit pour renouveler spirituellement les cœurs et les esprits, le monde et l'Église? Et je vous suggère de recourir, entre autres, à la dernière interpellation fraternelle, la quatrième, aux archevêques et évêques, où une vingtaine de caractéristiques et de points de repère nous sont proposés. Cassette 13, D2, 38 et 39. Enfin, on pourrait également imaginer une grille d'évaluation des chefs spirituels en les questionnant directement, personnellement, avec bienveillance et confiance, bien entendu sans guet-apens ni détour, sur leur champ visuel actuel face au dernier temps et au retour possible de Jésus. Leur demander, par exemple, si à leur avis, nous en sommes rendus ou non à cette période exceptionnelle. et sur quel signe repose leur opinion positive ou négative, ou leur indécision. Leur demander s'ils croient en un retour possible de Jésus. Et s'ils y croient, est-ce un retour en personne et dans la gloire, ou seulement d'une façon symbolique, comme le pensent et le disent plusieurs? Voit-il ou non le déclin à la fois du monde et de l'Église présentement? Et s'il le voit, qu'attendent-ils alors pour passer aux actes et convoquer leurs ouailles en les invitant à tomber à genoux, à se repentir, à demander pardon, à implorer miséricorde, etc., etc. Passons à la question C. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Mes amis, dans une situation délicate comme celle-là, il faut éviter à tout prix les mauvaises réactions, non seulement inutiles, mais nuisibles. Comme par exemple, écrire une lettre de bêtise, quitter l'Église, ne plus pratiquer, se mettre à douter de soi, généraliser, faire campagne contre ce leader et liguer les gens, dénigrer, diffamer, divulguer, couper les ponts. Je dois, au contraire, montrer qu'il existe une attitude adulte, chrétienne, à la fois agréable à Dieu, confortable pour soi-même, édifiante pour tous et utile pour le concerné. Je tiens à faire ici encore pour la deuxième fois une précision indispensable. Soyons compréhensifs, indulgents, tout en étant, comme il se doit, exigeants envers ceux et celles qui veulent être nos leaders ou chefs spirituels. Le fait pour l'un ou l'autre de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas comprendre, actuellement, à ce moment-ci de sa vie, tout ce qui se passe d'extraordinaire dans le monde et l'Église, de ne pas croire aux signes avant-coureurs, pourtant très évidents pour beaucoup, de l'avènement et des événements exceptionnels déjà en cours, ne fait pas pour autant de ce chef spirituel un homme ou une femme d'Église à rejeter, ignorer, étiqueté de mauvais ou de dangereux. Loin de là, il faut faire la part des choses et avoir assez de sagesse et de noblesse qui viennent de Dieu pour reconnaître par ailleurs leurs autres dons ou qualités d'ordre spirituel. Quelqu'un peut manquer de cette foi très grande requise pour capter et décoder les signes des temps actuels et par ailleurs, être une personne priante, fervente et dévouée au Seigneur et à l'Église et exemplaire à bien d'autres points de vue. Question D, toujours dans le chapitre 9. Comment faut-il vivre ces divergences, ces dissidences ou distances à prendre au besoin en toute sécurité et paix de conscience? Morale, psychologique et sociale. Il faut savoir et comprendre que affirmer sa divergence et sa dissidence ou prendre sa distance face à un leader spirituel, qu'il soit évêque, prêtre, directeur spirituel, dirigeant de mouvement, aumônier, berger de groupe, supérieur, etc., après avoir constaté hors de tout doute qu'il n'est pas à la hauteur de la situation dans les circonstances actuelles, après un discernement sérieux, spirituel où toutes les chances lui sont accordées, comme on l'a mentionné déjà, ne constitue pas une erreur ni un faux pas, mais une épreuve. Ce n'est pas rejeter l'Église, ce n'est pas blesser l'Église. Car aucun de ces hommes ou de ces femmes en poste d'autorité ou de confiance, pas plus qu'aucun d'entre nous, à lui seul, ne constitue l'Église, qu'il soit prêtre, évêque ou cardinal. Le conseil donné, « Laisse tout et suis-moi », ne convient qu'au Christ. Et si pour des raisons que je n'ai pas jugées, cette personne en qui je devrais normalement retrouver l'image du Christ et reconnaître la voix du bon pasteur, non seulement me déçoit, me laisse sur ma faim et soif spirituelle, mais contrecarre, éteint ou désamorce en moi le souffle vivant de l'Esprit du Seigneur, je me dois d'aller chercher ailleurs et autrement conseil et soutien, du moins pour un certain temps X, tant et aussi longtemps que ce chef spirituel en titre et fonction ne reviendra pas à faire autorité aux yeux de mon cœur et de mon esprit. S'en éloigner après discernement pour un temps est loin d'être un acte répréhensible, peut même devenir souvent un devoir, un acte vertueux, un service à rendre, non seulement à moi, mais à lui. Prendre ses distances de tel ou tel leader spirituel en titre et en fonction dans tel milieu d'Église, qu'il soit archevêque, évêque, prêtre ou laïc engagé, supérieur, berger ou aumônier, n'implique aucun retrait ou encore moins rejet des autres membres de la hiérarchie, du clergé ou en autorité ici ou là. Bien au contraire, cela doit nous inciter tous à regarder ailleurs, par-dessus la clôture, au-delà des limites de sa paroisse, du diocèse, de sa communauté locale, du mouvement précis auquel on appartient, pour repérer d'autres leaders spirituels, et il y en a beaucoup plus qu'on pense, qui sont présentement tout feu, tout flamme, toute flamme, en Église qui se renouvelle. On ne sent pas chez eux le recto tonneau du fonctionnaire habitué à la routine d'Église, mais on sent chez eux des évêques, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des évangélisateurs spirituellement ardents, en qui la vérité se clame, la foi s'exclame et la charité se proclame. Et on me fait signe que le temps d'une pause est arrivé.